Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours avec le même plaisir que le messager du cheval vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique dédiée à celui qui, dit-on, est la plus belle conquête de l'homme, le cheval, une émission proposée par Michel Clément, tous les mercredis et les samedis sur CFM Radio, la radio de proximité que vous êtes toujours plus nombreux à écouter, ce dont je vous remercie. Alors, on va démarrer pour une chevauchée radiophonique de 25 minutes. Et pour commencer, on va prendre le mot au mot, et aujourd'hui c'est le mot reître. Alors ce mot reître apparaît dans notre langue dans la seconde moitié du XVIe siècle, d'abord sous la forme de reistre, puis de reître. Il est emprunté à l'allemand reiter, qui désigne dans cette langue un cavalier mercenaire de langue germanique, qui s'est mis au service de la France, donc du verbe reiten, du verbe allemand reiten, qui veut dire monter à cheval, et du reste que l'on retrouve en anglais dans le verbe to ride, avec un sens équivalent, monter à cheval. L'origine du mot est très ancienne, il est issu en fait d'un mot gaulois « reda » qui veut dire « chariot » avec le sens de « voyager », c'est important, se déplacer. Et mot que l'on retrouve dans le vieil anglais « rad », une course de chevaux ou de bateaux. Et de là vient le mot « raid » qui désignait chez les Écossais au début du XVe siècle « parcourir un pays à cheval dans le but de piller », ce qui nous amènera au sujet principal de cette émission, hein, dans le but de piller à cheval. Et nos reîtres ne sont pas loin. Raid évoluera pacifiquement vers le mot road, en français la route. Alors justement, pillage, piller à cheval. La semaine dernière, le messager du cheval a évoqué un peuple venu d'Asie qui a laissé dans la mémoire collective des populations d'Europe un souvenir détestable. Les Huns et son roi Attila. Ils sont l'exemple même des barbares sans foi ni loi, des sortes de démons surgis des bouches de l'enfer qui ne tarderont pas à être surnommés par les populations terrorisées le fléau de Dieu. Ils s'installent dans l'actuelle Hongrie vers le milieu du IIIe siècle et entreprennent une série de raids de pillage à travers toute l'Europe. Alors justement, la Hongrie d'où ils s'étaient installés, bon, ce sont des populations qui viennent d'Asie, évidemment, et dans la langue hongroise, un nombre important de mots sont d'origine turque. Voilà. Alors donc, pour en revenir à nos Huns, qui mènent leur raid, et un de ces raids mènera les armées Huns jusqu'en Gaule. Et c'est au cours de cette expédition qu'Attila trouvera en face de lui un général romain de grande valeur, Aécius, même certains historiens pensent que c'est le dernier grand général romain connu. Alors, Aécius a un atout non négligeable, il connaît bien les Huns, et dans son jeune âge, il avait été donné comme otage d'honneur aux Huns pour garantir le respect des traités. C'était une chose qui se faisait, voilà, donc on donnait un enfant pour être sûr que les traités soient pas trop violés. Il parle leur langue et connaît leurs coutumes, lui-même a recruté des mercenaires Huns pour combattre les Visigoths installés dans la région toulousaine, réprimer des révoltes paysannes ou encore contenir les tribus burgondes d'Allemagne. Alors, pour stopper cette chevauchée qui menace à terme l'ensemble de la Gaule, Aécius réussit à négocier l'aide de Théodoric, le roi des Visigoths de Toulouse, maintenant ils sont copains, celui-là même que le général donc avait défait quelques années auparavant. Attila fuit devant cette coalition et amorce une retraite vers les frontières est du pays. Il est néanmoins rattrapé par l'armée romaine et donc Théodoric, le Visigoth, entre Chalon-sur-Marne et Troyes, près du bourg gallo-romain de Catalonum. C'est ici, donc, à Catalonum, le 20 juin 451, bon voilà, que se déroulera la bataille décisive qui réussira à chasser les Huns de Gaule et que l'histoire retiendra sous le nom, et les écoliers, sous le nom de bataille des champs cataloniques. Alors, les deux armées s'affrontent. D'un côté, Attila et ses alliés, alors, il y a des Gépides, des Alains, des Germains, etc. De l'autre, Aécius, Théodoric, le Visigoth, est épaulé par des auxiliaires levés parmi les tribus franques de Gaule qui se mêlent au combat. Et ce combat dure toute la journée, du reste combat au cours duquel le roi Théodoric trouve la mort, il se fait tuer. Le soir venu, Attila comprend qu'il a perdu la partie, il dispose ses chariots en cercle pour protéger son camp et donne l'ordre d'empiler les selles et les brides des chevaux afin d'y mettre le feu. Et des témoins présents racontent que le chef 1 aura même envisagé tenter de se jeter dans le brasier plutôt qu'être fait prisonnier. Mais la purée n'aura pas lieu pour une raison alors assez obscure. Le général Aesius n'ordonne pas l'assaut final. Attila peut alors se replier. Un repli qui n'a pas été, comme on l'a parfois dit, un sauf qui peut, général, mais bien au contraire, une retraite parfaitement maîtrisée. Donc ça se fait dans l'ordre. Et le chef 1 réussit à ramener dans l'ordre la plus grande partie de son armée pour la mettre à l'abri au-delà de la rive orientale du Rhin, c'est-à-dire grosso modo retour à la case départ. Donc l'année suivante, Attila mène une nouvelle chevauchée, cette fois dans le nord de l'Italie. Il saccage et brûle des villes comme Aquilée, dont les survivants iront se réfugier dans les îlots d'une lagune, qui sera appelée du reste à se forger un grand destin. C'est effectivement là que 2 siècles plus tard sera fondée Venise. Après la prise de nombreuses autres villes, en particulier Milan, Attila songe à marcher sur Rome. Il finit par y renoncer après que le pape Léon Ier réussit à le convaincre d'abandonner ce projet et de se retirer, lui et son armée. Bien sûr, bon, on pourrait penser que l'intervention du pape, surmédiatisée, on dirait aujourd'hui par le clergé de l'époque, n'a sans doute pas été inutile. En fait, deux événements majeurs ont poussé le chef des Huns à se retirer. D'une part, les profondes perturbations climatiques, et oui, ça existait déjà, apparues en Europe à cette époque, qui avaient anéanti les récoltes et provoqué de grandes famines. Donc c'était un petit peu difficile de trouver à manger pour les chevaux et pour les hommes surtout. Et c'est au cours de ces mêmes années qu'apparaissent en Occident les premières épidémies de peste noire. Bon, qui ont décimé les populations, on le sait. Alors pour de nombreux historiens, en fait, ce sont ces épidémies, plus que le reste, et l'intervention du pape, qui auraient en fait été les véritables gagnantes de la dernière chevauchée du roi des Huns. Alors Attila meurt subitement l'année suivante, donc on est en 453, le lendemain de ses noces avec Ildiko, une jeune fille d'origine germanique. Il avait 59 ans. Alors une légende assez tenace raconte qu'Ildiko aurait empoisonné le roi Hun, mais aucun fait ne vient étayer cette thèse. Et plus probablement, Attila aurait succombé à une hémorragie digestive massive provoquée par une consommation excessive d'alcool au cours du fameux banquet de mariage. Il est vrai que l'alcool circulait bien dans le palais d'Attila. Alors selon l'usage, sa dépouille est exposée dans une tente de soie. L'élite de ses cavaliers organise une impétueuse course à cheval autour de cette tente, autour de laquelle il chante les exploits du roi défunt. Alors le roi donc est placé dans un cercueil orné d'or, d'argent et de fer. Alors le fer, c'est un métal précieux à cette époque, il faut s'en souvenir. Il sera inhumé au cours de la nuit. Avec lui sont enterrés, comme c'était la coutume, ses chevaux, ses armes, ses bijoux et ses objets les plus précieux. Et alors la cérémonie terminée, les fossoyeurs recrutés parmi les prisonniers de guerre sont massacrés afin de garantir le secret de l'emplacement de la tombe, une tombe qui n'a toujours pas été retrouvée à ce jour. Secret bien gardé. Quant à Aesius, il mourra au milieu du en 454, donc au milieu du 5e siècle, assassiné de sa propre main par l'empereur romain Valentin III. Et en fait, c'est une vieille tradition romaine. Depuis la lutte sans merci entre Pompée et César, quelques siècles plus tôt, les empereurs romains ont bien compris qu'un général qui s'est couvert de gloire deviendra tôt ou tard une menace mortelle pour eux. Évidemment, la population, le peuple l'aime et voilà, il devient donc politiquement dangereux. Et donc, le fameux Valentinien, qui connaît bien son histoire romaine, a évidemment préféré prendre les devants. C'est ce qu'on appelle le principe de précaution. Ce qui ne l'empêchera pas d'être assassiné à son tour un an plus tard par un concurrent du nom de Maxime Pétrone, qui sera lui-même lapidé par la population de Rome une année plus tard, l'année où les tribus vandales s'apprêtent à investir la Gaule. Alors, on va s'accorder maintenant une pause musicale avec Carlos Santana, Guajira.
¿Qué es lo que quiere Guajira?
Les règles dynastiques en usage chez les Huns imposent que la succession d'un chef défunt soit immédiatement assurée. Chez ces peuples en guerre quasi permanente, la moindre vacance du pouvoir, on l'imagine, entraîne inéluctablement l'affaiblissement de la tribu. Le système de la régence tel qu'il a été appliqué dans nos monarchies européennes était impraticable pour ces populations qui ont été longtemps nomades. La tribu ne pouvait attendre que le fils encore enfant du roi défunt atteigne l'âge requis pour gouverner les siens. Et quand le roi mourait, de maladie, d'un accident de chasse, au combat, ou plus souvent de ce qu'on appellerait une révolution de palais, c'était l'un de ses frères qui le remplaçait automatiquement et immédiatement. Les Huns n'étaient pas les seuls à pratiquer ce système successoral qu'ils appelaient le tanistry, c'est le nom, voilà. On le trouvait également en usage chez les Burgondes, les Vandales ou encore les Francaliens qu'on connaît bien, les Francaliens de Clovis. Cette règle dynastique comportait malgré tout un inconvénient majeur. Elle incitait les frères laissés pour compte à se liguer contre le souverain, contre le frangin qui avait été qui était devenu roi, d'autant que ce dernier était polygame. Plus un chef était puissant et plus il avait d'épouses. Alors les unes étaient offertes en gage d'alliance par des tribus amies ou encore étaient capturées à l'occasion de raids de pillage, avec pour première conséquence la constitution de fratries pléthoriques et pour seconde conséquence des conflits et des intrigues sans fin entre les épouses. Chacune d'elles effectivement essayait de faire accéder l'un de ses propres rejetons au pouvoir royal, un pouvoir de ce fait constamment menacé, fragilisé. Et à titre d'exemple, Attila fera tuer, comment on va dire, préventivement, l'un de ses frères du nom de Bléda, qu'il trouvait un petit peu trop ambitieux. Si le pouvoir royal était menacé par les frères du roi, il l'était également par les propres fils de celui-ci, exactement pour les mêmes raisons. Ainsi, Attila fera empaler, alors là c'était un petit peu sa mode à lui, faire empaler, c'était pas mal, donc fera empaler deux de ses propres enfants qu'il soupçonne de vouloir l'assassiner. Il les soupçonne, donc il prend les devants. Le statut des épouses, qu'elles acquièrent par le mariage et qu'elles transmettent à leurs enfants, leur permet de nouer de solides alliances intertribales. En se hissant au sommet de la hiérarchie politique, elles sont en mesure de conquérir le pouvoir, pas pour elles, mais au profit de leur propre lignage par fils interposé. Ce système qu'on appelle exogamique, joint à la polygamie, permet de rassembler les tribus entre elles dans une sorte de nation cimentée par la solidité des traités basé sur les liens du sang. Et le génie d'Attila, du reste, sera de généraliser ce système traditionnel, à la fois pour sa propre lignée, mais également pour celle de ses différents vassaux qu'on pourrait appeler ses clients. Alors la femme Hun jouissait d'une indépendance matérielle. Même mariée, elle restait propriétaire de ses propres biens. Elle les emportait avec elle en cas de divorce et pouvait les transmettre de plein droit à ses enfants. Son statut de femme mariée et de mère lui permettait également d'exercer un rôle politique. À ce sujet, l'ambassadeur et chroniqueur romain Priscus, qui les connaissait bien, c'est un, nous décrit sa rencontre avec la reine, une reine qui s'appelait Héracane, qui était une des trois femmes d'Attila dont l'histoire a retenu le nom. Alors qu'est-ce qu'il dit ce brave Romain Priscus ? Je m'approchais de l'enceinte d'Attila pour apporter des cadeaux à sa femme qui s'appelait donc, on l'a vu, Héracane. À l'intérieur de l'enceinte, il y avait un groupe important de constructions, quelques-unes faites de planches sculptées et assemblées ensemble. Donc on est loin de l'imaginaire du camp barbare assez guenilleux, assez affreux. Alors donc là, dans ce camp vivait l'épouse d'Attila, le plancher était recouvert de tapis de feutre et je trouvais la reine étendue sur un divan. Une abondance de serviteurs l'entourait en formant un cercle. Des servantes étaient assises devant leurs travaux de broderie de lin fin de couleur destinée à orner les vêtements barbares. Donc on voit que Héracane n'habite pas sous le toit d'Attila. Elle a son propre palais, on dirait. Alors, donc, ces barbares incultes et sanguinaires, comme toujours, la réalité, en fait, est plus contrastée. Pour s'en convaincre, écoutons à nouveau ce que l'ambassadeur Priscus nous dit. Alors, il raconte un voyage où il essaye de rejoindre la capitale d'Attila. Voilà. Alors, vers la fin de l'après-midi, nous dressâmes notre camp près d'un village. Soudain, le vent et la tempête éclatèrent avec du tonnerre, de grands éclairs et de la pluie. Terrifiés par le tumulte qui se déchaînait dans les les airs, nous quittâmes les lieux et nous nous éparpillâmes, chacun d'entre nous dans l'obscurité la plus battante, prenant le chemin qui nous paraissait le plus aisé. En fait, c'est la débandade. Arrivant aux huttes du village, nous nous regroupâmes ensemble et nous nous mîmes à crier pour réclamer du secours. À ce vacarme, les villageois sortirent, allumèrent des roseaux avec lesquels ils ont l'habitude de faire du feu et de la lumière. Ils nous demandèrent ce que nous voulions en criant. Quand nos interprètes barbares leur eurent expliqué que nous étions paniqués par la tempête, ils nous appelèrent et nous prirent dans leur propre hutte et, en brûlant une grande quantité de roseaux, ils nous réchauffèrent. La femme qui commandait le village, une des veuves de Bléda, on s'en souvient, qui a été tuée préventivement par Attila, hein. Cette femme nous envoya de la nourriture et de très belles femmes pour que nous nous unissions à elle, ce qui est une marque d'honneur chez ces peuples, oui, et puis aussi, forcer un peu la main pour faire des alliances. Donc, à la fois, c'est généreux, mais c'est un petit peu intéressé. Alors, nous offrîmes, dit Priscus, généreusement aux femmes les aliments placés devant nous, hein. Ça, c'est les bonnes manières latines. Voilà, mais nous refusâmes de nous unir à elle. Et ouais, vous voulez pas tomber dans le piège. Vers la fin du jour, nous allâmes rechercher nos bagages et les retrouvâmes à l'endroit où nous nous étions arrêtés le jour précédent. Alors ça aussi, c'est important parce que les uns avaient évidemment une image de pillards. Et là, ils ont laissé tous leurs trucs dans la débandade, sous la tempête. Ils ont laissé tous leurs biens dont certains avaient de la valeur. Rien n'a été volé. Nous les rassemblâmes et passâmes la journée dans le village à nous sécher, donc ils devaient être trempés, ces pauvres, car la tempête s'était arrêtée et le soleil brillait à nouveau de manière éclatante. Quand nous eûmes pansé les chevaux et le reste des animaux de bas, nous rendîmes visite à l'ancienne reine, donc, la remercièrent et la récompensâmes avec 3 coupes d'argent, des cuirs teints en rouge, du poivre indien, entre parenthèses, quand on dit que ce sont les Portugais qui ont ramené le poivre en Europe, le poivre par la route de la soie arrivait en Europe bien avant les Portugais, des dattes et autres fruits secs auxquels les barbares attachent beaucoup de valeur parce qu'ils ne sont pas produits dans leur propre pays. Donc, c'est de l'exotique, et ils aiment bien l'exotique. Puis nous lui adressâmes tous nos remerciements pour son hospitalité et partîmes. Alors c'est vrai que quand on pense aux Huns, on pense à des espèces de gens incultes, barbares, mais ça n'était pas des barbares comme on peut l'imaginer. Alors à lire pour en savoir plus, Atlas de Rome et des barbares de Hervé Englebert, professeur d'histoire romaine à l'université de Nanterre, que vous trouverez aux éditions Autrement. Attila, la violence nomade de Michel Rouche, professeur à l'université de Paris-Sorbonne chez Fayard. Attila, prétendument barbare, un dossier complet dans le numéro 796 de la revue Historia. Et ces 3 ouvrages sont disponibles à la médiathèque de Rodez. Nous arrivons maintenant au terme de cette émission. C'est avec plaisir que le messager du cheval vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors n'oubliez pas, c'est tous les mercredis et les samedis à 12h35 qu'il y a un cheval dans les studios de CFM Rodez 107.9. Il est également présent tous les mercredis à 12h35 et les samedis à 10h sur CFM Villefranche-de-Rouergue 90.2. Vous pouvez réécouter l'ensemble de ces émissions sur le site cfmradio.fr à la rubrique Le messager du cheval. Alors merci à toutes et à tous de nous rester fidèles et bien sûr un grand bravo à nos chevaux. Ciao, ciao.